Je vais vous saluer avec joie ce matin, pour ce temps dont on passe ensemble. C'est un culte, donc, de la différence. Et moi, j'ai une toute autre façon vraiment de prêcher, hein, qui est propre donc, à ma culture aussi. Et en général, quand je prêche, je me manifeste de la joie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut manifester de la joie à côté de lui ce matin? Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui faire le plus beau sourire que tu aies jamais fait dans ta vie? Amen. Alléluia. Alléluia. Et si tu es dans la joie, est-ce que tu peux faire des... Voilà. Amen. On est... Le culte est tout trouvé. On dit que c'est le culte de la différence. Alléluia. Et moi, j'ai été longtemps tropicalisé. Je sais donc, depuis que je suis là, de faire un peu comme vous. Oui, mais la couleur un peu plus forte encore. On va essayer de s'adapter encore. On essaie toujours de s'adapter. Mais comme j'ai longtemps vécu dans mon pays, c'est pas facile. Mais ça fait une richesse. C'est ça qui est intéressant. Ça fait une richesse. Et voilà. Donc, soyez bénis ce matin. Et je voulais parler d'un thème que tout le monde connaît un petit peu, on en a déjà, enfin, vous avez déjà entendu parler, c'est le repos que Jésus nous donne. Hein, Jésus nous promet le repos. Et donc, excusez-moi si parfois vous n'entendez pas, dans ma langue maternelle, il y a des phonèmes, il y a des syllabes que nous on avale. Donc, souvent, c'est pas facile. On va essayer. Hein, voilà. Donc, on va lire un passage dans le livre de Matthieu, Matthieu 11, à partir du verset 28. J'ai une toute autre version, donc je vais lire Matthieu 11. Est-ce que vous y êtes? Ok. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Amen. Voici donc la parole de Dieu. C'est les vacances, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'été et c'est la période des vacances. Et en général, tout le monde prend des vacances. On essaie de se déplacer, de changer de lieu pour se ressourcer. De l'année où on a beaucoup travaillé. On veut faire un petit break pour ceux qui sont mariés, qui ont des enfants. On laisse les enfants de côté. On va ensemble se retrouver. C'est tout à fait normal. C'est pas un registre, ce n'est pas qu'on les délaisse. Mais tout le monde a besoin de repos à un moment donné. On a besoin de changer un peu, recharger ce qu'on appelle les batteries. Et moi qui suis sportif, c'est d'autant plus important parce que sans le repos, on n'arrive pas à vraiment à atteindre la performance. Et donc, c'est normal qu'en ce moment précis, que beaucoup de personnes cherchent à prendre des vacances, donc à changer un peu d'air, à se revigorer en allant voir d'autres lieux, en voyageant, toutes ces choses, ou même en restant sur place, en faisant autre chose. C'est normal. Et Jésus aussi nous promet le repos, comme il a dit ici. Il nous promet le repos. Et la question que je me suis posée, et quand tu lis les deux ou trois versets, cette assertion de Jésus-là, cette affirmation, cette déclaration de Jésus-là est encore d'actualité? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on peut encore avoir le repos? Mais c'est à cause aussi de la catégorie des personnes à qui Jésus lance le message, à qui Jésus lance l'appel, qui m'amène à réfléchir. Il dit « Venez à moi ». Il ne dit pas « Venez à moi, vous les forts ». Il ne dit pas « Venez à moi, vous les champions ». Il ne dit pas « Venez à moi, vous qui n'avez jamais franchi ». Il ne dit pas « Venez à moi, vous qui n'avez jamais péché ». Il ne dit pas « Venez à moi, vous qui êtes infaillibles ». Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». On est dans un monde aujourd'hui où le leitmotiv, c'est la méritocratie. Où on doit être fort, on ne doit pas flancher. On doit se présenter comme quelqu'un qui, à la limite même, je veux dire, qui n'a pas de sentiment. Voilà, on doit être fort, on doit toujours avoir la tête haute, on ne doit jamais flancher. Et c'est ce qu'on nous enseigne, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les grandes nations écrasent les petites nations, les plus forts écrasent les plus faibles, au point où, à part des pays où encore, aujourd'hui, Dieu merci, on arrive à créer le cadre pour aider les handicapés. Et parfois, on a l'impression même que quand tu as une situation de handicap, tu n'as plus d'avenir, que ton sort est scellé. Et quand tu es quelqu'un qui vit une situation un peu difficile, hein, des lassitudes, des fatigues, tu as l'impression que tu as parfois même honte de le dire à quelqu'un, ou bien de le signifier, ou bien de le faire apparaître. Voici le monde dans lequel nous sommes. C'est pour cela que dans 2 Timothée, on dit, dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Les gens seront orgueilleux, fanfarons, blasphémateurs. On donne une apparence qu'on n'a pas. On se montre comme on n'est pas. Heureusement que Jésus nous parle et nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. C'est un appel, c'est un encouragement que le Seigneur nous lance. La première catégorie des personnes, parce que la fatigue et être chargé, ce n'est pas la même chose. Il dit, vous qui êtes fatigués. La fatigue est un état de lassitude, hein, qui provient, excusez-moi, ma déformation, pour ce fait que, en sport, quand on est fatigué, on a répété un effort, et à un moment donné, on ne peut plus répéter cet effort-là. On est fatigué. C'est pour ça que quand on fait la préparation physique en sport, on essaie de tout mettre en œuvre pour reculer au maximum la fatigue. Donc, quand la fatigue, c'est un état de lassitude. On est fatigué, on est épuisé. Et parfois, c'est face à des situations de la vie. Hein, on peut avoir un petit problème qu'on n'arrive pas à résoudre. On arrive au service, on a un responsable qui ne fait pas de la dentelle, qui à la moindre erreur vous rabroue, vous fait passer à tous les niveaux avec des paroles dures, par des paroles méchantes, et ça vous fatigue, mais vous êtes obligé d'y aller parce que c'est votre gagne-pain. Ça peut être une situation de chômage aussi qui est là. Depuis un moment, vous cherchez du travail, vous ne le trouvez pas. Et vous passez partout, vous n'en trouvez pas. Ça peut vous fatiguer. Il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent dans ce monde-ci, aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, à tous les partout, où il y a des choses qui nous fatiguent. Et parfois, on ne sait pas où donner de la tête. On ne sait pas vers qui se tourner. On ne sait pas que faire. Jésus dit, venez à moi. Jésus nous tend la perche. Et c'est d'autant plus d'actualité cet appel que le Seigneur nous lance, que de plus en plus, et tout le monde le sait, au fur et à mesure qu'on avance vers la fin des temps, les choses deviennent encore plus difficiles. Aujourd'hui, il y a une dépravation des mœurs qui est telle qu'on est obligé même de faire attention avec les enfants au niveau d'Internet. Il y a des choses qu'on voit. Il y a des choses qui nous agacent l'esprit. Quand tu ouvres la télé, il y a des choses qu'on entend, des choses qu'on voit. On se demande qu'est-ce qui se passe, où va le monde aujourd'hui. Et c'est des choses qui sont de nature à nous fatiguer. Ça peut être une situation même familiale. Aujourd'hui, il y a des drames dans les familles. Il y a des enfants qui ne parlent plus à leur père. Il y a des pères qui ne parlent plus à leurs enfants. Vice-versa, la maman. Il y a des drames dans les familles. Et toutes ces choses nous fatiguent. On ne sait pas que faire. On a tout essayé. Parfois, on allait voir même d'autres personnes. On allait voir des amis. Mais ça ne va pas. On n'a pas de solution. On ne sait pas que faire. Le Seigneur dit, venez à moi. Amen. Il dit, venez, il nous tend la main, il nous lance un appel. Avec, vous voyez, le verbe, avec le mode qu'il a utilisé ici, l'impératif, venez à moi. Et c'est une déclaration forte que le Seigneur nous lance. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Je ne sais pas par quelle situation tu passes, qui te fatigue, qui t'agace, par laquelle tu es lassé. Tu es, à la limite, tu vas vers le découragement. Je regardais un peu les statistiques du suicide en France. Mais c'est ahurissant. C'est ahurissant. Permettez que je regarde mes petits papiers pour voir, parce que j'ai écrit, pour ne pas oublier. Mais c'est ahurissant. Près de 11 000 morts par année en France. Voilà. Chaque année, entre 10 000 et 11 000 personnes se suicident en France. 80 000 sont hospitalisés à la suite d'une tentative de suicide. 27 décès par suicide par jour en France. Et ça, c'est des situations qui arrivent après des dépressions ou bien des chocs, du chômage, des situations. Bon, on était dans une situation, on était à l'aise. Surtout que ici, excusez-moi, je ne lance pas de discrédit, Mais je veux dire, l'individualisme est tellement poussé, est tellement fort, que le jour où tu n'es plus à même de suffire toi-même à tes charges, tu n'es plus à même, c'est vu même à la limite comme j'allais dire, le mot échappe un peu, mais c'est comme si c'est un rebut de la société à la limite, parce que tu n'es plus à même de suffire à tes charges ou bien t'offrir certaines choses. On te regarde comme quelqu'un qui est, j'allais dire, bon, bref. Et ça, le chômage est la cause principale des suicides en France. Parce que bon, c'est vrai qu'à l'époque, on était encore, la belle France, il y avait beaucoup plus de choses, il y avait beaucoup plus de moyens. Aujourd'hui, même au niveau économique, il y a des crises. Et tout ça, c'est une répercussion sur les gens. C'est le monde, et c'est pas seulement en France, c'est partout, mais c'est plus le cas de la France parce que nous y sommes. Et la situation de stress, d'épuisement. Et ce qui est bizarre, et ce qui m'a un peu étonné, c'est que les hommes se suicident plus que les femmes. Les hommes se suicident plus que les femmes. Mais c'est au niveau des dépressions maintenant que les femmes ont pris le devant par rapport aux hommes. Donc, vous voyez, c'est des situations que nous vivons. Et devant ce genre de situation, nous qui avons choisi le Seigneur Jésus, nous qui avons accepté de notre vie, nous avons une solution. Il dit, venez à moi. Il nous tend la main. Donc, nous, on peut encore avoir un salut. Il peut même aller au-delà, porter ce salut aussi aux autres. Et la deuxième catégorie des personnes que le Seigneur désigne ici, il dit ceux qui sont chargés. Et vous savez, la Bible nous parle dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset. Il nous parle d'une femme qui avait une vie comme ça, qui avait des difficultés. Tout le monde connaît un peu cette histoire, qui a eu la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme était fatiguée. La Bible dit qu'elle est passée partout. Elle a dépensé tout son argent. Elle a vu tous les médecins qu'elle pouvait voir. Mais elle n'a jamais pu avoir la guérison. Elle était fatiguée par sa maladie, épuisée. Et si ça se trouve, cette femme devait être une femme qui était mariée à quelqu'un. Son mari a dû la laisser. C'est, quand c'est comme ça, les amis ont dû la laisser. Elle était abandonnée. Elle n'avait plus rien. C'est une situation comme ça. Et il y a des situations comme ça dans la vie aujourd'hui. Et béni soit le nom du Seigneur, parce que cette femme-là, ayant entendu parler du Seigneur Jésus, vous entendez encore parler du Seigneur. Aujourd'hui encore, on vous parle. Demain, on vous parlera. C'est la vérité. Il faut avoir la foi pour accepter. La femme est un exemple de foi dans la Bible. La Bible dit qu'elle a touché les pans de la robe du Seigneur, elle a été guérie. Amen. Elle a compris que celui qui venait là, ce n'était pas n'importe, c'est quelqu'un qui peut lui apporter la guérison. Amen. Et elle a été guérie. Et la deuxième catégorie des personnes que le Seigneur désigne, il parle des personnes qui sont chargées. On peut être chargé. On est chargé par une situation difficile. Ça peut être un parent qui est là. Ça nous pèse. On a un poids. On a un péché qu'on n'a pas, peut-être. On a l'impression que Dieu ne peut pas nous pardonner ce péché-là. Le poids est là sur nous, ça nous pèse. On a une difficulté qui est là. On a l'impression qu'on ne peut plus. Ou bien ça peut être quelqu'un qui a divorcé une fois et qui a le sentiment qu'il ne peut plus, sa vie, c'est fini, c'est la fin. On n'encourage pas le divorce, c'est vrai. Mais le Seigneur nous tend encore la main, sans nous charger. Quel que soit le problème qui nous charge, quel que soit le poids qui est sur notre conscience, mieux vaut aller au pied du Seigneur et déposer cela. Mieux vaut aller à la croix et déposer cela. Le Seigneur nous y encourage. Il dit, venez à moi. Il nous appelle. Parce que le poids. Il y a des situations difficiles. Il y a tellement de situations. On ne peut pas tout expliquer ici, mais. Tu as des enfants. Tu leur donnes des conseils comme tu veux, comme tu peux. Mais on n'est jamais à l'abri de ce que les enfants peuvent faire. C'est pour ça qu'ils appellent les enfants. Le rôle que les parents ont à faire, c'est leur donner des bases, des valeurs chrétiennes. Maintenant, ce qui va arriver dans leur vie, c'est qu'on doit les soutenir par la prière et continuer à s'aimer dans leur vie par la prière. On n'est pas, même si beaucoup de gens, je veux dire, des théories le disent, on n'est pas maître de notre destin. Notre vie dépend du Seigneur, amen. Chacun Dieu a un projet pour chacun de nous. On n'est pas né au hasard. Personne n'est venu sur cette terre au hasard. C'est pour ça que moi, je suis tellement à l'aise devant les préjugés. Vous ne pouvez pas comprendre, je suis à l'aise devant les préjugés. Parce que
Tous ceux qui ont des préjugés sont en prison. Ils sont prisonniers de leurs préjugés. Parce que je dis toujours, je le dis, bon, quelqu'un qui est né en Afrique et quelqu'un qui est né en France, dites-moi, quel mérite les deux ont eu? Est-ce qu'on choisit sa terre de naissance? Est-ce que toi, tu étais là-bas? Excusez-moi le terme, tu étais spermatozoïde, tu as dit, moi, quand je veux naître en Amérique. Personne n'a choisi ça. Personne n'a choisi ça. Et c'est pour cela que c'est bon qu'on parle de culte de la différence. On prend ce qui est bon chez l'autre et on avance. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur. Il dit, venez à moi, vous qui êtes sages. Voilà la catégorie. Et on comprend. Le Seigneur, ce qui est formidable, il n'est pas venu sur la terre pour les plus forts. Il est venu pour ceux qui étaient malades, pour ceux qui sont faits. Il dit, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Amen. Pour guérir les cœurs brisés. Pour proclamer une année de grâce. Pour renvoyer libres les opprimés. Le Seigneur est venu pour délivrer. La Bible dit que le Christ est paru pour détruire les œuvres du diable. Le diable a sémé beaucoup de choses dans nos vies. C'est parce que parfois on ne sait pas qui nous sommes. Quelqu'un me disait hier, le diable est tellement jaloux de l'homme qu'il veut tout faire pour lui faire échouer. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi Adam et Ève, dans le jardin, dès les premières heures de l'existence humaine, parfois on les accuse de nous-mêmes aussi, on est parfois enclin à des choses. Allez, excusez-moi. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur vient. Et vous voyez, la catégorie, c'est des personnes qui sont faibles. On n'a pas honte devant Dieu parce qu'il nous connaît. L'homme est qui? C'est un souffle. Il y a comme une fleur. Le matin qui éclore et le soir après, quand la journée est passée, le lieu où elle était ne la reconnaît plus, comme le dit dans le psaume 103. Et c'est pour cela que la première parole, il donne des conditions aussi pour ceux qui l'appellent vers lui. Il dit, acceptez mes exigences. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'accepter mes exigences. Dieu, sinon le Seigneur, nous donne des exigences. On ne vient pas à lui comme ça. On vient à lui dans l'humilité. On vient à lui en prenant conscience de ce que on n'est pas capable. Parce que Dieu, il ne choisit pas des champions, mais il fait des champions. Dieu ne choisit pas des hommes capables, mais il rend capable ceux qu'il choisit. Vous vous rappelez, Gédéon, la Bible est pleine d'exemples. C'est Dieu qui nous fait. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'accepter. On n'encourage pas la paresse. Mais quelqu'un a dit, c'est Dieu connaît le monde, il sait ce qui est dedans. En général, lui, par exemple, la Bible, c'est lui qui l'a faite en inspirant les gens. C'est lui qui, quand tu payes une pièce, quand tu achètes un matériel, il y a le manuel pour voir l'utilisation. Là, c'est le manuel du fabricant. Le fabricant, c'est Dieu. Nous sommes entre lui des vases, dans ses mains des vases qu'il utilise comme il veut pour sa gloire. Donc, on n'a pas à avoir honte d'être faible. Même si le monde pense qu'il est fort. Même si les gens pensent qu'ils sont forts. Il dit, venez accepter l'humilité. Quelqu'un m'a dit un jour, on ne peut pas rentrer sous le lit si on ne s'abaisse pas. Si tu as mis quelque chose sur ton lit que tu veux prendre, tu oublies de t'abaisser. Tu oublies d'être humble. Venez là-bas. Accepter, Dieu va nous dire, voilà comment on fait, voilà comment. Il nous dit, il nous montre cela. Alléluia. Et deuxième chose, il dit, laissez-vous. On a toujours l'impératif, accepter. Après, il dit, laissez-vous instruire. Parce qu'en réalité, nous avons besoin d'instruction. Nous avons besoin d'apprendre comment la vie du royaume se passe. Parce que nous appartenons à notre royaume. Nous ne sommes pas de ce monde, même si nous sommes dans ce monde. Le fait qu'on accepte Jésus nous a mis à part. Et nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Mais on a besoin d'être instruit dans la parole du Seigneur. On a besoin de recevoir la volonté du Seigneur qui transparaît allègrement et de façon positive dans sa parole. Il dit, laissez-vous instruire. Et ce qui me plaît, vous savez, quand Jésus parle, je dis, mais jamais homme n'a parlé comme ça. Lui seul peut dire aujourd'hui, venez à moi.
Je vais vous donner du repos.
Acceptez les exigences, laissez-vous instruire. Et parce que nous sommes des privilégiés. Il y a des fêtes, il y a des cérémonies dans lesquelles pour entrer, il faut avoir certaines parures, il faut avoir certains grades. Mais lui, il dit venez. Soyez humble. Laissez-vous instruire. Je crois que c'est Hériot qui disait, ce que je sais, je ne sais rien. Et Descartes disait, c'est à partir du moment où, je parlais du doute méthodique, que je ne sais pas, c'est là qu'on commence à comprendre, à apprendre du moins. Et même l'apôtre Paul le disait, c'est alors que je suis faible que je suis fort. La puissance de Dieu se manifeste dans nos vies là où on est faible. C'est une réalité. Même si, je veux dire, on est passé par le siècle des Lumières, où la science a pris une autre dimension. C'est vrai. J'aime bien jouer un exemple de Yonggi Cho, le pasteur Yonggi Cho, qui est un pasteur coréen, qui a une grande église en Corée, qui disait un jour qu'il était en train de discuter avec un grand médecin, et en Corée, là-bas, je crois. Et le médecin lui a dit, on a fait une découverte ces derniers temps, on a constaté que la langue et la parole, selon le siège de la parole dans le cerveau, elle ne influe sur tout l'organisme. Et c'est une découverte extraordinaire. Donc, c'est le professeur en médecine qui disait ça au pasteur Yonggi Cho. Et le pasteur Yonggi Cho lui dit, mais moi je suis au courant de cette nouvelle depuis, parce qu'il y a docteur Jacques qui m'a expliqué ça déjà. Il dit qu'il y a docteur Jacques, il dit, moi c'est un médecin qui était là il y a 2000 ans, tout, il parlait de la faute de Jacques.
Effectivement, qui parlait du pouvoir de la langue, qui est un gouvernail. Est-ce que vous comprenez? C'est un livre déjà que vous pouvez voir ça. Et lui, il expliquait ça. Il dit, oui, il y a longtemps que moi je sais ça. Docteur Jacques m'a expliqué ça depuis. Il dit, ah bon, ok, donc il comprenait. Il dit, même, je lui dis que même la science aujourd'hui n'est que la découverte de ce que Dieu a créé, que Dieu a fait. Non, parce qu'on est scientifique, on va rejeter c'est même pas la religion, parce que nous, on n'est pas des religieux. On est des croyants, on est des petits Christ. Parce que la religion, c'est l'effort que Dieu, l'homme fait pour aller vers Dieu. Aucun homme ne peut trouver Dieu si Dieu ne se révèle à lui. C'est Dieu dans son amour qui est venu vers les hommes au travers de qui on appelait Emmanuel. Dieu avec les hommes. C'est Dieu qui est descendu vers nous. On a fait la tour de Babel, on allait où avec ça? On ne pouvait pas. Personne ne peut, tous les efforts des humains sont vains si Dieu ne se révèle pas. Si Jésus n'était pas venu vers nous pour nous sauver, aucun homme n'allait pouvoir se sauver lui-même. Aucun. La Bible dit, il n'y a aucun autre nom sous le soleil par lequel nous puissions être sauvés sous le nom de Jésus. Alléluia. Donc, acceptons ces exigences. Soyons humbles et recevons cela. Et il dit, il se déclare, il se présente. Je suis doux et humble du cœur. Alléluia. Il est doux et prend l'exemple donc du joug. Il dit, mon joug est léger dans d'autres versions. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un joug sur lequel nous mettons avec le Seigneur. Parce que les animaux, les bœufs, on leur met un joug, on les oblige d'aller là ou là. Dieu nous a donné le discernement, il nous a donné le libre arbitre. C'est lui qui nous donne la capacité de choisir, de lui obéir ou de ne pas lui obéir. Et on appelle ça la volonté permissive de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on lui obéisse. Parce que c'est comme un enfant. Tu es un enfant, tu lui dis, il veut rentrer dans une relation, un qui est adolescent, qui est grand. Non, je vais faire ça. Mon fils, ma fille, ne fait pas ça. Tu sais très bien que ce n'est pas bien pour, même si on dit pour la liberté, tout. Mais finalement, quand l'enfant, ça va, excusez-moi, il se cogne la tête, après il est obligé de revenir vers toi pour dire, ah papa, au moment où tu avais raison, tout et tout. Mais c'est ton enfant, tu vas le prendre quand même. Amen. Alléluia. Et donc, Jésus se présente, il dit, mon joug, c'est-à-dire, il nous donne des instructions, il nous encourage, il nous montre le chemin, il nous montre la voie pour que nous puissions vivre heureux. Il dit, c'est en ce moment-là que vous allez trouver le repos. Parce qu'effectivement, on a besoin du repos. Et vous savez, toujours comparativement au sport, le manque de repos est dangereux pour l'homme. Quand tu ne te reposes pas, tu es livré à un état où tu vas vers, j'allais dire, tu te désagrèges, tu te détruis. Donc il y a des choses pour lesquelles on a besoin de venir au Seigneur pour dire, Père, Seigneur, la chose-là est trop difficile pour moi à porter. Ce poids-là est trop difficile pour moi à porter. Je ne peux pas le porter. Je dépose ça à la croix. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un péché de le faire. Parce que moi je sais, par information, et je sais que beaucoup de personnes, j'ai eu des exemples, beaucoup de personnes qui sont dans des... qui font des pactes même avec le diable, qui font des choses. Alors parfois, ces personnes se retrouvent seules à la maison et sont en train de pleurer. Il n'y a personne pour les aider. Nous, on a le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur de l'humanité qui est là. On a Christ qui est mort pour chacun de nous. Et je voulais terminer par ça. C'est tellement extraordinaire. Vous savez, quand on dit en gros que le résumé de la Bible, c'est quoi? Le résumé de la Bible, c'est un verset, c'est lequel? Comment? Jean 3,16. Et ce verset-là, c'est venu quand je regardais ça. J'ai essayé de faire abstraction et je regarde. On dit quoi? Qui peut me lire Jean? Qui connaît Jean 16? Est-ce que je n'ai pas entendu, hein? Voilà. Amen. On va faire un petit exercice maintenant. On va reprendre le verset. Et vous allez remplacer le monde là par votre prénom. D'accord? Est-ce qu'on peut reprendre ensemble? Allons. Car Dieu a tant aimé, désiré, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, vous voyez maintenant, Dieu a tant aimé. Madame Dufon. Sylvie, je ne connais pas le nom de Sylvie, excusez-moi. Donc Dieu vous a tant aimé. Vous voyez l'importance que vous avez au niveau de Dieu. Vous êtes la prunelle du Seigneur. Il vous a tant aimé. Alléluia. Vous savez, c'est des choses. Si on ne s'y attarde pas, si on ne s'assoit pas un moment pour y réfléchir, on les prend comme ça. C'est bizarre. Parce que. Il y a une chose je dis, mais vraiment, on a besoin du Seigneur, on a besoin d'être dans la parole. Parce que vous savez, c'est comme un magnétoscope qui a enregistré plein de mauvaises choses, plein de choses bizarres. Et c'est au fur et à mesure qu'on écoute la parole que les choses se mettent en ordre. Quand on a besoin parfois d'être saturé, je pense que dans le processus d'apprentissage, la saturation est très très importante parfois. Et là, on a besoin de comprendre. Il y en a qui aujourd'hui encore vivent des régimes parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas aimés. Ça, c'est des fois, c'est des charges qui sont aimés. Mais la Bible dit que Dieu vous aime. Et il dit dans le psaume 139, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Chacun de vous ici est une créature si merveilleuse. Alléluia. Et en plus, vous avez dépassé le stade des créatures maintenant. Parce que Dieu a des créatures. Vous êtes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Vous êtes des personnes importantes. J'ai un ami pasteur qui disait que lui, si ça y est, il va faire des choses comme ça. Il dit lui, même si les gens ne le considèrent pas dehors, il s'en fout. Il dit quand il rentre chez lui, à la maison, et que ses enfants coupent, papa, il se lève avec lui, il dit dans la maison. Alléluia. Il dit ça. Alléluia. Donc, on n'a pas le droit d'abandonner. On n'a pas le droit de se délaisser. On n'a pas le droit de jeter l'éponge. Parce que nous, au moins, on a une alternative. On a Jésus qui nous tend la main. Il dit, je me tiens, dans Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Alléluia. Ce matin encore, le Seigneur frappe à votre porte. Il dit, venez à moi. Si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, je suis là pour répondre à votre détresse. Je suis là pour vous apporter le secours dont vous avez besoin. Je suis là pour restaurer votre vie. Je suis là pour apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Alléluia. Et je vais terminer par ça. La Bible dit que dans le livre de Jean 3, au nom de Cana, Jésus était invité aussi. Nous, on n'invite pas Jésus aussi, hein. On l'invite à la première place. Alléluia. Comme on l'a chanté tout à l'heure, Jésus est le centre de notre vie. Donnons-lui la première place. Bon, bref. Ils ont invité Jésus aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le vin a manqué. On sait que le vin réjouit le cœur de l'homme. Amen. Le vin,
Ça, c'est une très bonne chose que la France a.
Vin,
c'est très bon. Voilà.
C'est bon. Moi, j'ai des fréquentes indigestions. Donc, je prends un verre de vin chaque fois que je suis à table. Un verre de vin, voilà. Il y a quelqu'un, on lui a dit de prendre un verre de vin. Il n'y a pas de problème, ça c'est une petite digression. Il allait prendre une coupe spéciale, pas où il a eu la coupe, mais la coupe est ici. Donc il prend un seul verre de vin. Le médecin a dit un seul verre de vin, et voilà. Et je ne sais pas comment les bouquets vont ramasser dans le vin. Et donc, ça veut dire que Jésus était là, et le vin a manqué. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a appelé, Marie l'a appelé sa mère,
et il a changé l'eau en vin. C'est ma conclusion. Et il dit,
et l'ordinateur du repas a dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Il dit, tout homme sait d'abord le bon vin.
Et puis après, on donne le vin qui est moins bon. Quand tout le monde est un peu... Voilà.
Ça me fait rire, une petite histoire que je vais vous raconter. Qu'est-ce qu'on fait dans la joie ce matin?
Il y a quelqu'un qui dit, si tu vas dans un bar pour boire, hein, pour faire la bière, il dit, regarde la serveuse qui a moins joué. Et fais-toi ce qui paraît. Il dit, si au fil de tes bouteilles de bière ou de tu constates qu'elle commence à devenir de plus en plus belle, c'est que tu commences à être ivre, vacant.
C'est juste pour rire, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas joli, tout le monde est joli au nom de Jésus. Amen. Donc,
oui, la vie, c'est pas que l'église, c'est un ensemble.
Donc, je disais, et l'ordinateur de repas dit, on sait d'abord le bon vin, et puis après, quand tout le monde est ivre, on sait le moins bon.
C'est comme ça que le monde fonctionne. Et ceux qui veulent arriver en vitesse à obtenir certaines choses, c'est voir la difficulté. Utiliser les voies où on a toutes les bonnes choses venues. Le Seigneur ne fait pas comme ça. C'est une question de processus. Il ne faut pas connaître ce qui va te détruire. Le meilleur arrive encore. De toute façon, la gloire de la deuxième maison sera encore plus grande. Je prophétise que ce qui arrivera dans votre vie sera encore meilleur que ce qui est déjà là au nom de Jésus. Amen.
Je proclame qu'il y a des choses heureuses qui vont vous arriver encore au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu Amen, hein?
Amen.
Voilà, c'est comme ça que moi je prêche quand je suis en Côte d'Ivoire. Ici, je m'adapte un peu, quoi. J'adapte un peu. Amen. Et quand je dis, Dieu fait. Je prophétise que ceux qui n'ont pas encore de travail vont avoir un travail merveilleux au nom de Jésus.
Amen.
Je prophétise que ceux qui ont une petite blessure, un petit mal, une petite maladie, seront guéris d'ici 6 mois au nom de Jésus.
Amen.
Moi, j'ai fini de dire, c'est Dieu qui fait, sinon c'est pas moi. Que Dieu vous bénisse, c'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Allez, on va prier pour le Seigneur. On va prier avec... qui va prier? Madame Diophon, vous pouvez prier pour la fin, s'il vous plaît.